Vous êtes sur RTL.
Et plus loin.
RTL Matin.
Avec Yves Calvi.
7h44, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin l'écrivain Sylvain Tesson.
Bonjour Sylvain Tesson.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur RTL. Vous publiez donc L'énergie vagabonde aux éditions Robert Laffont dans la collection Bouquins. Alors c'est un recueil de vos œuvres, vos carnets de voyage. Franchement, publier des carnets de voyage en ce moment alors qu'on n'a pas le droit de voyager, c'est dur. C'est un peu le supplice de Tantale, si vous me permettez.
Oui, à moins que ce soit l'objectif et le motif principal de la lecture que de nous permettre de réaliser d'autres voyages, même quand le corps reste immobile.
C'est ce que vous dites souvent, prendre la tangente, c'est ça que ça signifie, prendre un livre, c'est s'évader.
Voyager et lire, pour moi, ça a toujours été prendre la tangente. J'essaye à chaque fois que je suis dans une situation ou dans un état, de trouver le chemin de traverse, l'issue de secours, le moyen de contourner l'obstacle. J'aime les lignes de fuite.
Sylvain Tesson, vous êtes toujours aussi perplexe face à toutes ces mesures qui entourent le confinement et peut-être bientôt les annonces d'allègement de confinement ou d'assouplissement de restrictions ?
Écoutez, je ne vais pas ajouter mon petit commentaire personnel et ma minuscule opinion individuelle à tout ce tombereau immense, cet ensevelissement d'analyses que nous entendons depuis 6 mois, les uns pensant qu'il faut verrouiller les quarantaines, les autres rêvant de rouvrir les lazarets de l'ancien temps, et les quatrièmes ou les troisièmes s'imaginant que tout va bien. Je ne sais pas, je vois qu'il y a une menace et qu'il y a une réponse.
Il y a
une menace qui est une menace pneumonique, générale, planétaire, une circulation virale, enfin je n'apprends rien à personne. Et puis il y a une réponse qui est adaptée selon les dispositions que décident les gouvernements. Et il me semble que parfois la menace est inférieure à la réponse, ou que la réponse est proportionnellement plus sévère que n'est dangereuse la menace. Voilà.
Bon, on en fait trop.
Mais voilà, oui, mais on peut. Vous comprenez, c'est très délicat de dire ça parce que moi j'ai été le premier à bénéficier des soins que m'a apporté le système hospitalier français quand j'ai été brisé après un accident où je suis resté pendant 5 mois à l'hôpital. Donc je comprends très bien qu'il faille ménager ce système très fragile, très déséquilibré et qui requiert l'énergie, la force et la compétence de tout ce personnel hospitalier médical. Je le comprends parfaitement, mais je vois que nous sommes congelés, nous sommes mis en état d'hibernation, nous sommes anesthésiés comme si une espèce de cocktail lithique s'était immiscé dans nos organismes. Et tout ça pourquoi ? Pour que nous ne toussions point. Moi, je lis les chiffres. Enfin, je sais pas, vous êtes, je crois, très informé ici. Vous avez noté que la létalité de ce virus n'est pas très importante, me semble-t-il. Peut-être me tromper-je, parce que moi, je n'ai aucune légitimité pour répondre à la question que vous me posez, mais puisque vous me la posez, j'y réponds. J'ai l'impression qu'il y a une létalité qui est faible et qu'il y a une menace qui est terriblement constrictive, et c'est là où je vois une disproportion.
Mais qu'est-ce qui vous désespère dans cette affaire ? Est-ce que c'est l'autorité de l'État ? Est-ce que c'est de décider de l'égalité à tout prix pour tout le monde ?
Non, ce qui me désespère, je vais vous dire, c'est que il me semble que les grandes questions qui ont traversé l'humanité, les grandes questions qui traversent l'homme, et qui étaient réservées autrefois à des catégories de population qui étaient les prêtres, ou alors au contraire les artistes, ou bien les penseurs, c'est-à-dire la question de la vie et de la mort, la question de ce qui est nécessaire et de ce qui est inutile, la question de ce qui est essentiel et ce qui est accessoire, c'est-à-dire en fait les grandes questions de la vie et de la mort, la question du salut et de la malédiction, la question du mystère biologique et de la raison humaine. Et bien maintenant, ce sont les bureaucrates qui décident de tout ça et qui donnent ces grandes réponses existentielles qui leur opposent des attestations dérogatoires et qui nous demandent de cocher des cases alors que autrefois on était sommé de réfléchir à des sujets.
Ça vient du sommet de l'État, ça vient du président de la République, toutes ces décisions.
Non, mais alors écoutez, moi vraiment, j'appartiens pas du tout à cette culture de la recherche à tout craint des responsables. Le côté haro sur le baudet, trouvons un bouc émissaire et pendons la marionnette que nous aurons affublée de toutes les responsabilités, très peu pour moi. Non, ça vient d'une espèce de volonté d'administrer les sociétés, ça vient d'une bureaucratisation probable de nos vies, que nous avons assez bien acceptée. Et puis j'ajoute pour conclure qu'il faut aussi endosser à nous autres, citoyens, notre part de responsabilité. Nous exigeons tout de l'État. Nous voulons être maternés par l'État. Nous voulons que l'État nous soigne, qu'il nous chauffe, qu'il nous transporte, qu'il nous éduque et qu'il nous divertisse. Il ne faut pas s'étonner, si on veut être materné, que de temps en temps, l'État veuille nous paterner.
Oui, après, on dit on nous infantilise.
Oui, c'est ça. Enfin, je ne sais pas si on nous infantilise. Qui est on? On utilise ce pronom nominal comme une espèce de golem, comme ça, un peu abstrait. Mais qui est on? C'est peut-être nous-mêmes qui nous infantilisons, puisque nous demandons tout à la puissance publique. Eh bien, si nous lui demandons tout, il ne faut pas nous étonner qu'elle veuille nous régir.
Sylvain Tesson, comment avez-vous vécu cette bagarre autour des librairies entre l'essentiel et le non-essentiel ?
Non, mais moi, les livres m'ont offert les plus beaux moments de ma vie, bien plus que les kilomètres, bien plus que tous les voyages que j'ai pu faire. Donc j'ai été tout à fait, évidemment, consterné de voir que ce commerce, qui ne me semblait pas être un foyer d'infection particulier, ni une fosse à purin très singulière, il me semblait que c'était tout à fait désastreux symboliquement de la fermer, mais pas seulement symboliquement. C'est-à-dire qu'il y a quand même une nourriture, appelons-la spirituelle, bien que ce soit un grand mot, mais il y a quand même une nourriture qu'on trouve dans les livres et qui permet d'épaissir sa vie, de l'enrichir. À très faible compte, n'oublions pas que la librairie, c'est un miracle démocratique. Pour le prix d'un paquet de cigarettes, c'est quand même merveilleux de pouvoir lire les philosophes antiques ou la poésie chinoise.
Le président Macron vous apprécie, je ne sais pas si c'est réciproque, il aime vous lire. Vous pensez qu'il peut se sortir de toutes les crises qu'il affronte, crise sanitaire, sécuritaire, économique, sociale ?
Mais il y a dans votre question une espèce de nostalgie monarchique, c'est-à-dire le fait de demander si un président peut nous sortir de toutes ces crises, c'est presque une question messianique. Un président n'est pas un messie, un président n'est pas un roi, c'est fini ça, nous avons coupé la tête aux nôtres il y a plus de 200 ans. Alors peut-être que l'un des malheurs de possibilité de réforme et de conduite apaisée de ce pays, hormis le fait que la situation est tellement immense, tellement inédite et tellement historiquement singulière, mais vient du fait que nous demandons tout à la tête. Et la tête ne peut pas résoudre l'immense complexité des problèmes.
Sylvain Tesson, vous êtes récemment rendu dans le Haut-Karabakh, cette petite enclave arménienne coincée en Azerbaïdjan, région montagneuse, grande, dit-on, comme la Haute-Savoie, 150 000 habitants. Là-bas, les Arméniens du Haut-Karabakh ont été victimes pendant 40 jours d'une offensive militaire meurtrière engagée par l'Azerbaïdjan et son allié turc. Alors, un cessez-le-feu est intervenu, mais rien n'est réglé. Pourquoi vous êtes allé là-bas ? Qu'est-ce qui se joue là-bas ?
Parce que moi, j'ai un cousinage intérieur avec l'Arménie. Je sens une fraternité qui n'est pas seulement spirituelle, mais qui est intellectuel, j'ai beaucoup d'amis, comme beaucoup d'entre nous, et je voyais que là-bas, il ne se jouait pas simplement une conquête territoriale ou un problème de revendication de terrain pour des enjeux de pétroliers, économiques ou agricoles. Il se joue quelque chose de beaucoup plus grave. Il se joue la volonté pour la puissance voisine turque, anciennement ottomane et azérie, de rayer de la carte un peuple. C'est-à-dire de recommencer l'immense tragédie qui s'est passée il y a 105 ans, en 1915, qui était le génocide arménien, orchestré par le voisin ottoman, et qui est en train, évidemment, sous une autre forme d'expression et d'une autre manière, de se répéter dans ces montagnes de l'Arménie, avec l'indifférence générale de l'Europe.
Ouais, personne ne s'indigne, c'est pour ça que vous êtes aussi allé là-bas.
C'est-à-dire que d'abord l'indignation ne suffit pas. L'indignation, ce n'est pas véritablement une action politique. Mais en tout cas, personne n'intervient là-bas. Enfin, si d'ailleurs, la Russie a fini par siffler le holà et par réussir à faire signer un cessez-le-feu entre la partie turco-azérie et la partie arménienne. Mais l'Europe a montré d'abord qu'elle avait perdu son influence dans ses confins de l'est de l'Anatolie ou de l'ouest de la Caspienne. elle a manifesté une relative indifférence qui est très étonnante, parce qu'il se joue là-bas quelque chose qui la concerne aussi. Il se joue là-bas la volonté du président Erdogan d'accroître sa puissance et de se servir de l'unité linguistique des peuples de langue turque pour réaffirmer son influence depuis les confins de l'Anatolie jusqu'aux steppes de la Mongolie, en passant par toute la bande latitudinale de la Caspienne, de l'Asie centrale et de la dépression kazakh.
Et je vous cite, dans une Europe de l'émotion automatique, pas une bougie, pas un cœur avec les doigts, pas un ours en peluche pour l'Arménie à genoux qui ne remplit pas les critères d'accession à la pitié globale. Merci beaucoup Sylvain Tesson.
Merci.
Je rappelle que vous publiez L'énergie vagabonde chez Robert Laffont dans la collection Bouquins. Merci.
Et que votre reportage en Arménie est paru dans le Figaro magazine que l'on peut toujours consulter. Merci infiniment l'un et l'autre. L'intégralité de l'entretien est à retrouver.
RTL Matin, les pépites d'Anthony Martin.
Tous les jours à 7h25 dans RTL Matin avec Yves Calvi, je vous propose une pépite musicale sortie de ma discothèque. Bowie chante Brel, Charles Aznavour s'essaye au disco, Clo-Clo à l'anglais. Chaque matin, une rareté, un pas de côté, parfois une nouveauté. On se retrouve chaque matin à 7h25 pour notre balade au cœur du patrimoine musical et bien sûr à tout moment en replay sur la nouvelle appli RTL.